Nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. Vous pourrez désormais nous écouter sur 99.5 MHz. Toutes nos fréquences sur franceinter.com.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec... Gwenaëlle Abolivier.
Ce mercredi, nous plongeons dans les archives sonores avec un beau personnage à la silhouette rimbaldienne et au regard bleu océan.
Ces moments de grâce dont je parle pour le théâtre, ils existent aussi dans le voyage.
Un acteur baroudeur, amoureux des longues traversées et des contrées lointaines. Rendez-vous avec l'acteur et écrivain de marine Bernard Giraudot ce soir à partir de 21h.
France Inter. La différence.
Et pour le moment, c'est Daniel Mermet que l'on retrouve. C'est l'heure de Là-bas si j'y suis, il est 15h04 sur France Inter.
Bah, je viens d'écouter, je suis très 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 ému l'émission d'hier et j'ai eu deux répondeurs d'or pour mes messages sur Strauss-Kahn où j'interromps la rédaction, où je jette l'iPad dans les chiottes et tout. Enfin, je suis vraiment très ému de cette récompense, ce répondeur d'or, je le méritais pas. Je sais pas si ma famille m'écoute, si les gens qui me couvrent, bref, enfin je suis vraiment ému de cette récompense. Deux répondeurs d'or, enfin bon, je voudrais remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi. Je voudrais remercier tous les gens qui ont cru en moi. Je voudrais remercier tous les gens qui à un moment m'ont encouragé, qui ont cru quand plus personne n'y croyait, que je pouvais un jour avoir un répondeur d'or. Et aujourd'hui, ça y est, on a gagné, on a le répondeur d'or. Et vraiment, je veux dire, ce répondeur d'or, je le dédie à tous mes proches. Ils le méritent plus que moi. Et je voudrais avoir une pensée pour Claude, qui n'a pas eu de répondeur d'or. Merci Claude, tu m'as inspiré malgré tout. Et voilà, et merci pour cette récompense. Merci à toute la profession. Merci pour ces deux répondeurs d'or. Et bonnes vacances.
Bonjour, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Une très très bonne nouvelle. Christine Lagarde est élue à la tête du FMI. Moi je suis satisfait. Mais alors ceux qui sont contents, ce sont les Grecs. Parce que comme ils ont vu qu'ils ont sorti tapis de la faillite, ils se sont dit, pour nous, elle va en faire autant. Salut!
Elles doivent être contentes, les féministes, aujourd'hui. Ben oui, quoi. C'est une femme qui a été nommée à la direction du FMI. Poste symbolique entre tous, puisqu'elle succède à un agresseur de femmes, à un violeur présumé. Elles doivent être contentes. Sauf que c'est pas la femme de ménage guinéenne de l'hôtel Sofitel de New York qui a été nommée. Bon, normal, elle n'avait pas les compétences, la femme de ménage. Le problème, c'est que la femme qui a été nommée à la direction du FMI, je ne suis pas sûr qu'elle s'intéresse beaucoup au sort des femmes de ménage. Je ne suis pas sûr que cette nomination soit une bonne nouvelle, non seulement pour les femmes de ménage guinéennes, mais pas davantage pour les femmes de ménage grecques, espagnoles, portugaises, et pas seulement les femmes de ménage d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la très grande majorité des femmes. Parce que qu'on dénonce l'exploitation des femmes, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas que l'exploitation sexuelle. Et la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI, je ne suis pas sûr que ça va contribuer à améliorer le sort des femmes en général. Je suis même sûr du contraire. Imaginez un instant la pire des probabilités. La réélection de Sarkozy à la présidence de la République française en 2012. Scénario de l'horreur, quoi. Eh bien, je ne suis pas sûr que les féministes se réjouiront lorsque, dans un an, le président réélu, une fois l'élection passée, annoncera aux Françaises et aux Français, lui qui, à sa conférence de presse récemment, se vantait qu'on était allé le chercher pour pas que la France subisse le même sort que la Grèce. Mais dans un an, une fois l'élection passée, il nous dira que finalement, un plan d'austérité semblable à celui qui a touché la Grèce, le Portugal et l'Espagne en 2011 doit être aussi appliqué à la France pour la sortir de la crise, et que cette décision a été prise en parfait accord avec la directrice du FMI. Ah ouais, elles ont tout lieu de se réjouir, les FMistes. C'est marrant. J'ai dit FMiste. Féministe. Ça ressemble à FMiste, en fait.
Oui, bonjour Daniel, c'est Chantal Tissot. Voilà, je t'appelle parce que mon cousin Germain Jacques est décédé dans la terrible explosion à Feur à Saint-Étienne. Et c'était pour dire ma révolte et ma douleur aussi. Et si tu pouvais faire quelque chose pour les ouvriers de cette usine, car vraiment, C'est incroyable de vivre dans des conditions et de travailler dans des conditions de travail, quoi. Je soutiens tous ces gens-là, tous ces ouvriers qui ont beaucoup de courage et tout ça, et je leur donne mon admiration et mon courage et poursuivre la lutte, quoi. Voilà, c'est Chantal, je suis infirmière et voilà, j'espère que le monde sera meilleur un jour. Au revoir.
Merci Chantal pour ce message. Effectivement, il y a eu cette explosion dans cette usine chez Valdi, à côté de Furs. Et Jacques Tissot, donc le cousin de notre ami, 55 ans, adhérent à la CGT, est mort dans cette explosion, ainsi que Damien Jameau, qui avait 29 ans et qui devait se marier dans quelques semaines avec sa compagne Angélique Pardon. Un drame terrible. Le procureur de la République de Saint-Étienne a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire dans le cadre du travail, donc après l'explosion. Ça s'est passé samedi à la fonderie Valdi, à Furs, dans la Loire. Deux salariés ont été tués dans cette explosion. Alors, aujourd'hui, on va parler justement d'un ouvrier, ou plutôt on va parler avec un ouvrier, pendant toute cette heure de la basse, si j'y suis. Lui, c'est pas la Loire, c'est pas la fonderie, c'est Peugeot, et il s'appelle Christian Corrouge. On l'avait rencontré déjà il y a quelques années, lorsque deux sociologues, Michel Pialou et Stéphane Beau, avait consacré toute une étude à la condition ouvrière. Un ouvrage qui avait fait du bruit à l'époque, « Retour sur la condition ouvrière », et qui était une enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. Et dans le cadre de ce travail, ces deux éminents sociologues ont rencontré pas mal d'ouvriers, dont Christian Corrouge, avec qui l'un des deux sociologues, Michel Pialou, a établi des liens d'amitié et de travail, rencontre entre un intello, un sociologue et un ouvrier, Christian Corrouge. Et ça donne un livre que je vous conseille, qui est absolument formidable, qui s'appelle « Résister à la chaîne », dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue, et c'est le dialogue entre ces deux hommes, l'ouvrier qui devient intello et le sociologue qui fait le boulot, parce que c'est lui qui enregistre, c'est lui qui prend les notes et qui fait tout ce travail-là. Et ça donne ces dialogues. Qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui dans une usine comme Peugeot à Sochaux, aujourd'hui ou il y a quelques années, mais ça n'a guère changé. Qu'est-ce que c'est que lutter? Qu'est-ce que c'est que s'engager? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier? Qu'est-ce que c'est qu'un syndicaliste? C'est aussi simplement un bonhomme comme vous et moi, ou une bonne femme en l'occurrence, qui a un parcours propre et qui a une vie propre et tout à fait singulière, bien évidemment. Donc, on va passer cette heure avec Christian Corrouge, que je tutoie au cours de cet entretien. Ça se fait pas, je sais, mais il y a des gens avec qui le tutoiement vient tout seul. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages, avec une bonne nouvelle, vous allez voir, qui vient d'arriver, que vous allez entendre tout de suite, un mariage, grâce à la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, chaque jour, avec impatience, nous attendons vos messages.
Bonjour à tous les AMG, et salut à toi, Daniel. Alors, il y a longtemps que j'ai pas réagi sur ce répondeur et je n'appelle pas pour réagir, mais pour te faire part de notre mariage à Flo et à moi. Pourquoi je te fais part de ce mariage? Eh bien, parce que nous sommes tes enfants, Daniel. Et il se trouve que Flo, qui est cette merveilleuse brune frisée qui était allée te chercher à la gare de Poitiers lorsqu'il était venu présenter Chemski Compagnie, eh bien, Flo, avec son ami Sylvain, ont créé le repère de Poitiers. Et moi, comme bonne AMG, je suis allé à ce repère. Et puis, ben voilà, on s'était déjà vu puisqu'elle me... Je suis chauffeur de bus et elle était venue me féliciter de mettre la route qui suit dans le bus. Mais je ne la connaissais pas. Et donc là, ça a permis notre rencontre. Et puis, ben, on a commencé à faire des manifs ensemble. Alors... évidemment, se faire filmer, photographier par les RG, ça crée des liens. Elle était ORSF, moi Greenpeace, donc on a partagé nos actions. Et puis, chemin militant faisant, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était les mêmes, quoi. Voilà, donc on se marie dans les Cévennes le 1 août. Donc si tu peux venir, eh bien, tu es cordialement invité. Sinon, eh bien, écoute, on se retrouve à la rentrée. Merci, au revoir. C'était Stéphane de Poitiers.
Petite fête avant les vacances pour le repère de la basse Si j'y suis de Tousson. Il se réunira le samedi 2 juillet à partir de 20h30 en compagnie de Patrick Pellou, avec qui vous pourrez discuter de l'hôpital public. Et puis, alors, comme c'est le dernier repère, il y aura plein de musiciens de jazz qui viendront taper le bœuf avec Patrick. L'entrée est bien sûr ouverte à tous, pas obligé de consommer, et on peut apporter son pique-nique sans problème. Le repère de la basse Si j'y suis est à la tête des trains, le dernier café du village de Tousson, Sud-Seine-et-Marne. Bonnes vacances à tous si on ne se revoit pas, et à la rentrée. Salut.
Un peu plus. J'ai une tendre amie charcutière qui un jour m'a dit « Mon cochon, mets-moi 300 grammes de cette chair qui tant ressemble au saucisson. » Prince du gag, roi de l'astuce, je répondis « Pas de problème, mais il y en a un peu plus. Est-ce que je vous le mets quand même ?» C'était Georges-Philippe Taladiard, poète vraiment, vraiment consternant. Merci à vous et à la saison prochaine, je l'espère.
En fait, je voulais laisser un message concernant une petite histoire qui nous est arrivée. Nous avons une petite fille qui est handicapée moteur, qui a 5 ans. Nous sommes allés ensemble au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours. Le Muséum de Tours prétend qu'il est accessible aux personnes handicapées. Nous nous présentons sur place et la personne chargée de l'accueil nous dit que non, non, ça ne va pas être possible de visiter le premier étage et le deuxième étage parce qu'il n'est pas possible de laisser rentrer les personnes en fauteuil roulant pour des raisons de sécurité, parce que vous comprenez, elles sont plus longues à évacuer que les autres, et donc pour des raisons de sécurité, on laisse passer les personnes valides avec des petits-enfants dans les bras, mais pas les personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc j'avais toute une histoire à vous raconter là-dessus, mais 2 minutes, c'est pas suffisant. Au revoir.
Bonjour, vous avez un petit terrain sur Dijon ou son agglomération, et vous rêvez d'un potager. Bien, nous plantons, nous jardinons et nous partageons ensemble la récolte. Contactez Alice, Manu et nos jardiniers au 06 71 48 65 28 ou écrivez à potagerdijon@laposte.net. Bonne journée à tous et à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Christian Corrouge, résister à la chaîne. Plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. Christian Corrouge, on s'est vu il y a... C'était en 2008, et j'ai retrouvé un carnet de 2008, et j'avais noté cette phrase que j'avais... Je ne sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça, d'où c'était tombé. Plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner. Et je trouve que ça te convient parfaitement, et que ça convient parfaitement à ce livre que tu publies avec Michel Pialou et que vous avez intitulé « Résister à la chaîne, dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue ». L'ouvrier de Peugeot, c'est toi.
Oui.
Christian Corrouge et Michel Pialou, c'est le sociologue. On va parler de lui, mais on va d'abord parler de toi. Il s'est passé un événement assez considérable dans ta vie il y a quelques semaines. Tu es retraité.
Je suis retraité depuis le 1er mai, donc au bout de 42 ans d'usine.
D'usine, chez Peugeot.
Chez Peugeot.
À Sochaux.
À Sochaux. Je suis rentré en 69 et donc je suis parti en 2011. Et j'ai bossé, pratiquement 25 ans sur les chaînes comme OS.
Voilà, comme OS. Voilà. Alors, j'ai en face de moi un ouvrier, j'ai en face de moi un militant,
ouais.
Et j'ai en face de moi un être humain aussi, tout simplement. Et avec un parcours, avec une vie, c'est pas seulement un ouvrier, pas seulement un militant, et c'est ça qu'on trouve dans le bouquin. C'est-à-dire qu'avec à travers ces dialogues avec Michel Pialou, eh ben, il y a toutes ces, ces analyses que l'ouvrier fait sur son travail d'ouvrier et sur le travail dans l'entreprise, et quelle entreprise, il y a le militant qui parle de ce que c'est que d'être militant, de plus vouloir être militant, ou détester ça, et puis d'y revenir quand même, d'y piquer au truc, etc. Et puis, il y a ta vie, tout simplement, avec les hauts, les bas, les drames, les grands moments, les foutus quarts d'heure. Et tout ça se mélange. C'est-à-dire que généralement, les livres sur les témoignages d'ouvriers, les témoignages dans la sociologie ouvrière, enfin, bon, voilà, on demande que l'ouvrier. Il n'y a que l'ouvrier qui s'exprime et qui va faire part de son expérience. Ou bien ça va être le militant qui va faire part aussi, lui, de son expérience, de ses conceptions, de ses convictions, de ses engagements, etc. Mais enfin, la personnalité, la vie, les hauts, les bas, les histoires d'amour, les avatars de l'existence, c'est toujours un peu mis de côté. Là, c'est les trois qui sont tissés.
Ben, je crois que c'est compliqué, mais j'ai jamais conçu la vie ouvrière comme étant quelque chose d'uniforme. On n'a jamais voulu, avec Michel, écrire un livre sur le mythe d'une espèce d'ouvrier viril, défendant les nobles causes, etc. Parce que c'est pas comme ça. La lutte n'est pas comme ça, le travail n'est pas comme ça. Je crois que moi, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'être rentré très tôt à l'usine, ce que je souhaite d'ailleurs à personne d'autre. Mais pour moi, ça m'a servi parce que c'était juste après 68 et ça m'a permis de faire connaissance rapidement de gens qui étaient des groupes Medvedkin, donc des cinéastes qui étaient dans les usines. Ouais. Et ça a déclenché chez moi une réflexion très différente en disant qu'un ouvrier, il n'est pas forcément là dans sa vie que pour serrer des boulons. Et il a un cerveau, quelque part, il aime aussi lire des livres, faire des choses, et donc pourquoi ne pas envisager ça.
Je propose que, pour essayer d'avoir un peu de cohérence, qu'on prenne ton parcours. Hein, en fait, on va prendre ta biographie en gros. Tu vas pas tout nous raconter dans le moindre détail, mais enfin par étapes, comme ça. Mais avant, je voudrais qu'on évoque la façon dont vous avez écrit ce livre. C'est un livre parlé et écrit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, c'est toi. Il y en a un qui pose les questions et écrit, c'est Michel Pialou, qui est sociologue, on le connaît. Son travail avec Stéphane Beau et Pialou, c'est presque comme Roux et Combaluzier. C'est les Roux et Combaluzier de la sociologie. Ça fait des années que vous vous connaissez tous les deux, Pialou et toi. Ça fait des années qu'il te pose des questions et que tu causes, mais il parle aussi pas mal. Comment vous avez fait ce bouquin ?
Bah, tout d'abord, mon problème, c'était que j'ai jamais pu réussir à écrire un mot. Autant je peux parler, autant je suis incapable de rédiger sur long terme. Donc voilà, donc il fallait à tout prix que quelqu'un le fasse pour moi. Et avec Michel a une façon de poser les questions qui m'oblige en même temps à me replonger dans mes souvenirs, dans mes expériences. Et quand je suis pas au point, bah, faut que je rebouquine un peu pour être au point la prochaine fois qu'il viendra. Et donc avec Michel, c'est ce boulot-là qu'on a fait quand même pendant 25 ans. Alors, de dire comment on a procédé, ben, gentiment, simplement, Michel venait à Bethoncourt, chez moi, donc à côté de Sochaux, et puis on discutait pendant une journée, deux jours, et puis voilà. Et puis il en faisait un article, ou il n'en faisait pas, mais c'était transcrit, puis un jour, ça donnait 1600 pages pour le ministère du Plan.
1600. Ah, oui, pour le ministère du Plan.
Pour le ministère du Plan. C'était une commande du ministère du Plan. Et donc, ça a donné ça. Mais on aurait pu s'arrêter là. Et en fait, on continue à le même genre de choses, le même genre, alors bien sûr, sur des sujets très différents, parce que l'usine s'est beaucoup modifiée. Moi, j'étais aussi, je suis à la retraite, donc c'est un peu différent. Mais on continue à parler régulièrement, parce que justement, ça nous semble utile, ça donne une cohésion à notre vie, je crois, à la sienne comme à la mienne. Mm-hmm. Et ça fait partie. C'est la démarche même que c'est pas parce qu'on est ouvrier, c'est pas parce qu'on est OS, c'est pas parce qu'on est en chaîne qu'on n'a pas des choses à dire. À condition que quelqu'un écoute et sache écouter.
Ce qui est marrant, c'est quand même que l'ouvrier est devenu un intellectuel et l'intellectuel Pialou a fait un boulot d'ouvrier. C'est-à-dire, c'est lui qui a pris les notes, qui a recopié, qui a.
On peut dire ça comme ça. En même temps, plus j'ai connu Michel et plus ma vie s'est compliquée. Parce que d'avoir une situation, pas intellectuelle, mais différente. que celle d'un ouvrier normal, ça pose des problèmes aussi considérables dans son propre travail. C'est compliqué à gérer tout ça. Mais c'est plutôt plaisant, je veux dire, moi j'étais plutôt envié de la part de mes copains de boulot. Mais en même temps, ils ne savaient pas tout le boulot que c'était pour arriver à ça.
Envié parce que tu signais des papiers, parce que tu étais présent dans des revues de sociologie,
que je savais répondre, parce que j'avais encore un goût de la découverte, parce que j'étais passionné par deux ou trois trucs, donc c'était un peu le boulot normal, comme j'aimerais que tous les militants soient, à savoir une espèce de source d'information. Moi, quand j'étais jeune militant, j'avais genre de personne qui m'a beaucoup aidé, il s'appelait Paul Seb. Donc,
on va en parler.
Légué de Fonderie, qui est un réfugié politique espagnol, qui s'appelait Antoine Paléo, qui a été un professeur, mais un professeur d'histoire ouvrière pour moi, mais pas pour moi, hein, pour une dizaine de copains du groupe Medvenkin, qui nous racontait en disant, les gars, il faut vous battre, mais avant tout, il faut se cultiver. Ça, c'est une bagarre qui est la plus importante. On voit bien, d'ailleurs, à l'heure actuelle, politiquement ou syndicalement, il faut redonner... À l'heure actuelle, quand il y a la crise économique frappe fortement, comme c'est le cas actuellement, sur quoi les communes vont taper, ou même le gouvernement, ça va être sur les budgets culturels. On sait tous que dans les périodes de crise, les plus assassinés, les plus pauvres, etc., les plus démunis, ce qu'ils ont besoin, c'est de culture pour avoir d'autres idées.
De lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes, rester condamné à n'évoluer et courir des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé, affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose sans renier mes origines. Et bien avant que je me décompose, vite besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim. Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle, un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis, j'ai les crocs, paroles de Morigot. Claque le bec des pédants, des prétentieux, dans ma bouche la langue française prend l'accent de la banlieue. Et c'est tant mieux, ça dérange, ça devient explicite, tout d'un coup les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé, incroyable, hein. Viens, tu vas te faire ridiculiser, à me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim, 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 faim.
Christian Corrouge. Déjà, moi, je voudrais qu'on arrête un truc sur ton nom. Corrouge. Ah. C'est quand même pas Martin ni Dupont. Ce nom est étonnant, quand même. D'où vient ce nom de Corrouge? Je sais que tu es né à Cherbourg.
Alors, c'est une histoire compliquée. Moi, je suis né à Cherbourg. Mon père s'appelle Corrouge. Sauf que mon grand-père s'appelait pas Corrouge. Il s'appelait Le Coq Rouge. Le Coq Rouge, parce qu'à Saint-Brieuc, où il était né, donc d'origine bretonne, à Saint-Brieuc, il s'appelait Le Coq Rouge. Et qu'on essayait de faire remonter un peu l'arbre pour retrouver un peu quelques souvenirs de cette famille, on était confronté à un changement de nom par la République française qui permettait à tous les Coq Rouges de Bretagne de s'appeler soit Carrouge, soit Corrouge.
Ah, d'accord.
Et voilà, donc on a découvert ça. Ça m'a jamais posé trop de problèmes de m'appeler Corrouge. Moi, je préférais être Coco à la limite avec mon nom plutôt que d'être de droite, quoi. Ça paraissait plus facile.
Ça tombait bien.
Ça tombait bien.
Et alors, ce qui a déterminé ta vocation ou ta prise de position ou ton orientation, je ne sais pas comment dire, tu vas me le préciser, c'est ton père, évidemment, qui a une grande influence sur toi. En ce que ton père était lui aussi ouvrier, il a eu une maladie grave et t'en a conçu un certain dépit, un certain regret.
Mon père est tombé malade d'un cancer à la vessie. J'étais très jeune, en fait, j'avais 11-12 ans. tout jeune comme ça, donc premièrement, ça m'a gâché mon adolescence, mais ça c'est un moindre mal, je veux dire, il y a eu des compensations à côté. Mais le problème, c'était la source de la maladie de mon père. Mon père n'est pas tombé malade parce qu'il fumait ou il buvait, etc. Il est malade parce qu'il avait bouffé des produits chimiques en faisant des vedettes rapides à l'époque, les fameuses vedettes construites à Cherbourg, qui étaient en matière plastique. La législation donc n'avait rien de prévu là-dessus. C'était pas dangereux, sauf que les gars qui inhalaient tous ces produits finissaient par avoir des cancers à la vessie. Et donc, mon père, après, était ouvrier d'État donc à l'Arsenal, et il a eu une chance dans son malheur, c'est que les chirurgiens de l'hôpital maritime, donc, puisque c'était la marine, pour avoir leur diplôme, doivent 15 ans à la marine. Donc, doivent exercer 15 ans pour la marine. La marine leur paye leurs études, mais ils doivent 15 ans à la marine. Et donc, il est tombé dans ces chirurgiens-là qui l'ont opéré, et un chirurgien qui était bien, qui était jeune, qui était sympa, qui lui a dit, mais comment vous avez attrapé ça? Est-ce que vous avez encore la liste des produits, etc., que vous avez utilisés? Mon père, qui était un vieux malin, avait gardé les produits. Et donc, lui a ramené tout ça, et donc, ça fait un procès où l'usine qui l'avait embauché, donc les usines Amiot, les chantiers navals de Normandie à l'époque, a été condamnée, donc a été reconnue maladie professionnelle. Je crois que j'en ai. Moi, ça a formaté mon cerveau de telle façon d'avoir une espèce de haine contre ces gens qui sont capables d'utiliser des matériaux de cette façon, en sachant très bien les dangers. Ça fait, me rappelle un peu l'amiante, en connaissant parfaitement les enjeux, et qui continuent quand même à nier les évidences et qui mettent des familles dans le malheur, je veux dire, dans un désastre. Et c'est vrai que ça formate une jeunesse. Donc à 17 ans et demi, 18 ans, moi, quand j'ai arrêté l'école, j'ai plus eu envie de vivre cette espèce de cauchemar, qui n'était pas un cauchemar, hein, il y avait des bons moments, hein, mais à côté de ça, il y avait une espèce de truc, et Cherbourg, c'était quand même un peu isolé, et donc, ils cherchaient du monde à Sochaux, donc je suis parti travailler à Sochaux. Quoi. J'ai voulu faire la rupture du père, mais c'est après, en vieillissant, qu'on s'aperçoit des choix. Hein. C'est le moment où on est plutôt content d'avoir une espèce de liberté, et en même temps, c'était la rupture du père qui était importante pour moi à l'époque.
ORTF, 16 juin 1968.
À Sochaux, la semaine a été lourde. Les obsèques du jeune ouvrier Jean Bellot, qu'une grande foule a suivi, ont rappelé la gravité des échauffourées qui ont eu lieu aux usines Peugeot après leur occupation par les forces de police. 2 morts, 67 blessés. Dans la métallurgie, la persistance des poches de grève s'est révélée dangereuse. Le secteur de l'automobile en particulier est demeuré sur le front social le point dur, le point névralgique.
Alors, tu arrives à Sochaux en
69, ouais.
69,
oui.
Donc un an après.
Oui.
Un an après, parce qu'à Sochaux en 68, ça a été très chaud, ça a été très violent. Il y a eu des grandes grèves en 68 à Sochaux qui se sont soldées par 2 morts. Tu arrives l'année d'après.
J'arrive l'année d'après et l'usine est encore marquée par ces événements. Moi, dans le secteur où je travaillais, donc j'étais tout jeune, je travaillais avec un copain, Bernard Calais, qui est resté un de mes amis proches, qui m'a raconté d'une façon terrible ces événements du 11 juin. Il y a eu le premier anniversaire donc du 11 juin 68 en 69. C'était assez bizarre, on bossait. Enfin, lui était déjà parti en grève, moi je ne savais pas ce que je devais faire. C'est 3 jours que j'étais embauché, donc c'était un peu compliqué. Et tout d'un coup, j'ai vu des mecs arriver en bleu de travail, mais 15 000 personnes qui passent devant le poste. On ne peut pas rester tout seul, donc moi je suis parti avec, quoi, forcément. Et donc je suis devenu militant ce jour-là. Quoi. Je veux dire, c'est impressionnant de passer devant, voir passer les gars plein de cambouis. À l'époque, les usines étaient sales, je veux dire sales, mais elles sont pas beaucoup plus propres maintenant, mais c'est plus dissimulé. Mais le cambouis, la graisse, la poussière, etc. Et ils passaient tous, ils descendaient les allées de l'usine et donc ils passaient devant mon poste de travail. Mais c'était 15 000 personnes, c'était énorme. Et donc, ben, tout le monde a suivi, on est tous partis. Hein.
Militant, c'est-à-dire que là, tu t'inscris à la CGT?
Là, je me syndique à la CGT, là, oui.
Et tu t'inscris au Parti communiste aussi?
Je m'inscris au Parti communiste.
Du même coup?
Bah oui, ça faisait le complément.
Et là, très rapidement, c'est là que je reprends ma phrase du début de notre entretien, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner, c'est là que tu rencontres ces intellos, ou du moins cet animateur culturel qui est Paul Seb, et qui va avoir beaucoup d'influence sur toi, et pas seulement sur toi, sur les jeunes de l'usine.
Alors, je rencontre Paul Sepp parce que le comité d'entreprise avait acheté une maison au bord du Doubs, s'appelait Clermoulin, qui est située entre Besançon et Montbéliard et Sochaux, et donc avec le projet de construire un centre culturel et de loisirs. Et on embauche un gérant, donc, qui s'appelle animateur socioculturel, qui s'appelle Paul Sepp. Paul Sepp, qui était un des animateurs de la bibliothèque de la Rodia Seta, mais aussi surtout un des fondateurs des groupes Edvenkin de Besançon. Et donc, son projet aussitôt, c'est de refaire un groupe Edvenkin sur ce show, donc, etc.
Explique-nous ce que c'est que les groupes Medvedkin.
Alors, les groupes Edvenkin, Medvedkin d'abord, c'est un cinéaste soviétique qui, en 23, demande à Lénine de lui donner un train pour parcourir l'Union soviétique, pour monter les films et que les citoyens russes voient comment avance la révolution. Après, Medvedkin n'a plus le droit de faire de cinéma pendant très longtemps, et en 67, il est réhabilité, il reçoit la médaille de Lénine et il décide de venir à Paris la remettre donc à Paul Sepp en 67 au groupe Medvedkin qui lui seul n'avait pas oublié qu'il existait. Et donc nous on a voulu s'appeler Medvedkin à cause de ça, une espèce de cinéma vérité rapide, efficace, mais dénonçant un peu tout ce qui peut se passer. En fait le projet c'était de filmer son poste de travail et de le montrer au public, dire arrêtez de nous faire endormir par les patrons qui disent que tout va bien, que les postes de travail sont bien, que les usines on s'amuse, c'est la joie, etc. Voilà.
Alors, levé à 2h du matin.
Sochaux, 11 juin 68.
Départ des bus, 3h.
Un film du groupe Medvedkin de Sochaux.
Arrivé, 3h30. La sirène, 4h. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point, c'est tout. La semaine après, changement de décor. Départ des bus, midi. Arrivée, 1h. La sonnerie, 1h15. Travail, 10h30, 11h moins le quart. Rentrer à minuit, avec une demi-heure de casse-croûte. Alors si bien que vous en avez l'estomac tout retourné, que vous arrivez à manger 2 ou 3 jours par semaine. Mais vous êtes 2 jours dans la semaine où vous mangez absolument rien. Le lundi, le mardi, il faut mieux pas y compter. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Il y en a 18 000 qui le font chez Peugeot. Il y en a 18 000 qui le font tous les jours. Il y en a 18 000.
Mais ce qui va se passer avec le groupe Medvedkin, c'est ce qui va t'arriver pour ce bouquin. Michel Pialou, le sociologue, est un intello qui vient de Paris. Et là, le groupe Medvedkin, c'est des cinéastes qui viennent de Paris, qui sont des artistes et des intellos, qui sont Bruno Muel et Chris Marker, entre autres. Comment vous allez vous emboîter avec eux? Comment ça va se passer entre eux, ce monde ouvrier et ce monde, disons, des artistes intellectuels parisiens?
Moi, je crois que c'est... Bon, on était très jeunes, donc... Pas spécialement influençable, mais on savait ce qu'on voulait. Et ces cinéastes avaient une particularité, c'est qu'ils savaient écouter. Mmh. Et donc, ça a pu fonctionner à partir de là. Il y avait une espèce d'échange. Moi, je ne racontais qu'une anecdote là-dessus. Moi, je cherchais des bouquins, mais c'est compliqué quand on est ouvrier. Comment on choisit un bouquin? Comment on va choisir un bouquin? Dans quelle librairie on rentre et qu'est-ce qu'on cherche? On n'a pas de repères. Je ne connaissais pas la sociologie. Non, j'ai jamais entendu parler, hein. C'est-à-dire que c'est pendant les CET que ça se pratique, hein. Donc on est un peu paniqué. Et puis je rencontre ces gens qui m'indiquent des livres à lire. Et à partir de là, ça déclenche chez moi tout un autre truc, parce que quand on en lit un, on en lit deux, et puis on connaît le rayon, donc voilà, on cherche. Et il y a tout un processus qui est engagé. Et cette rencontre permet d'imaginer qu'il y a une autre vie est possible et que c'est les ouvriers dans les usines peuvent aussi rêver à autre chose. Mais les cinéastes aussi, ça
s'aperçoivent à un moment donné, mais je pense qu'ils le savaient pour la plupart, oui pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart que des jeunes ouvriers avaient envie aussi de faire des choses très différentes, et avec leur vocabulaire, avec leur attitude très différente, mais avaient surtout envie d'apprendre.
Là tu te dis je vais devenir cinéaste. Non. Je vais me barrer de là, ou bien, non, moi ce que je veux c'est rester...
Non, c'est, je suis militant, donc je pense que le cinéma est une arme, je pense que le cinéma doit servir à montrer des choses, c'est le début de la télévision, vraiment de masse, je pense qu'on doit commencer à faire nos propres reportages pour arriver à les faire diffuser, etc. Je pense que c'est plutôt comme ça que...
Dans un but militant
dans un but militant, dans un but d'émancipation, et dans un but à rendre les gens moins cons qu'ils ne sont, voilà, tout simplement. Mais je pense que ça passe par là, je pense que ça correspond bien à la façon que j'avais envie de militer. C'était pas forcément de crier devant le patron, t'es un gros con et tu me dois des ronds. C'est aussi dire comment qu'on peut inverser les choses, justement pour changer le monde complètement, pour changer tous les rapports humains.
40 ans après, tu regardes ces films encore ?
Oh bah je les regarde parce que de temps en temps, on est appelé une diffusion avec Bruno Muel, donc c'est toujours des retrouvailles très émouvantes. Mais je pense qu'elles n'ont pas vieilli. Et vous savez, il y a un truc qui est marrant parce qu'il y a une copine... Laurent Jourdan qui a fait un film il n'y a pas longtemps sur l'usine et elle s'est servie des scènes de Week-end à Sochaux, donc d'un film de 40 ans après. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'usine à l'époque aurait voulu acheter une copie du film pour former ses cadres parce qu'eux aussi ils sont en manque de, comment dire, de paroles authentiques quelque part. Ils ont la parole, les remontées qu'ils ont des ateliers, c'est par l'intermédiaire de leur chef d'équipe, des contremaîtres, etc. C'est, à l'époque c'était ça. Or nous on avait un langage directement, voilà ce qui se passe. Et donc, il était friand de ça, on n'a pas voulu leur vendre. Donc voilà, mais autrement, il était prêt à acheter.
Approchez. C'est l'occasion unique, la chance de votre vie.
Week-end à Sochaux, 1971, un film du groupe Medvedkin de Sochaux.
Je suis là, je suis arrivé, vous étiez dans la stagnation, la misère, c'est fini. Non seulement je vous apporte la fortune, mais la gloire. Vous cherchiez du travail, je vous en apporte. Le plus beau, le plus noble, pour la plus grande gloire de votre famille, pour la plus grande gloire de la patrie, de la nation. Vous allez construire des voitures Peugeot.
Voilà, on va interrompre cette émission quelques instants. On va retrouver Christian Corrouge dans quelques instants. Mais on a un flash spécial de l'info, Angélique Bois.
Oui, on apprend.
France Inter.
On a appris en effet il y a quelques minutes que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont libres. L'Élysée l'a confirmé. Nos deux confrères journalistes étaient retenus depuis décembre 2009 en otage par des talibans. Ils avaient été enlevés donc il y a 18 mois au cours d'un reportage pour France 3 dans un village de la Capissa. Ils ont été libérés il y a quelques heures, a annoncé le Premier ministre François Fillon. Et ils pourraient être de retour en France dès demain, selon Reporters sans frontières. Nous reviendrons bien entendu sur cette information dans nos rendez-vous d'information de la fin de l'après-midi.
Christian Corrouge, ce qui est formidable dans ce livre, je rappelle le titre, Résister à la chaîne. D'ailleurs, pourquoi ce titre ? On dit briser les chaînes.
Moi, c'est vrai que c'est Agone qui a choisi le titre. Résister à la chaîne, ça peut être bien, parce qu'il y a le mot résister, résistant. Moi, ça me déplaît pas. Et maintenant, je dirais, il faut supprimer les chaînes. Ça devrait être inscrit quelque part au frontaux de l'ONU. Et imaginons le commerce mondial sans chaînes de fabrication en Chine ni au Vietnam, dans aucun pays du monde, plus de chaînes. Comment on ferait pour arriver justement à construire une autre société ? Je crois que c'est par là qu'il faut aller.
Or, toute ta vie, t'as bossé à la chaîne.
Pas toute ma vie. À la fin, après 90, je suis repassé. La direction s'était aperçue que je savais peut-être travailler un peu. Donc, elle m'a fait passer ouvrier professionnel. Donc, je suis devenu taulier. Donc, je réparais les voitures qui avaient été abîmées au cours de la fabrication, quoi.
Ce qu'on apprend, si on l'ignorait, et ce qui est tout à fait possible, c'est que ce qu'on appelle le monde ouvrier, là en l'occurrence le monde de Sochaux, disons de l'entreprise automobile Peugeot, on dit voilà, il y a des ouvriers. Hein, il y a des ouvriers, on va mettre même des salariés là-dedans, et puis il y a de l'autre côté les patrons, la maîtrise, etc. Ce que tu fais bien ressortir dans ces dialogues avec Pialoux, c'est la lutte de classe à l'intérieur de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'entre les OS et les OP, ce que tu viens d'évoquer, entre les ouvriers spécialisés et les ouvriers professionnels, et puis alors par la suite, les intérimaires, et puis les immigrés, et puis les femmes, tout ça, ça constitue des catégories à l'intérieur d'une catégorie, et ces catégories luttent entre elles, et parfois sont en conflit à l'intérieur d'un même monde social.
Enfin, on viendra sur les émigrés, les femmes.
Parce ça, ça vient plus tard.
Enfin, c'est, quand on parle d'OS, il faut toujours bien parler avec émigration. Moi, quand je suis arrivé en 69, je travaillais avec des Yougoslaves, des Turcs, des Marocains, des jeunes Marocains qui avaient le même âge que moi, hein, qui avaient 18, 20 ans. Hein. Et c'était pas les mêmes problèmes que maintenant. On parlait pas de l'histoire religieuse, machin. Je veux dire, c'était une déconnante. Surtout, hein, Yougoslave, Turc ou Marocain, il n'y avait pas cet aspect religieux, machin, etc. Mais c'était tout des OS. Et il y avait quand même un corps constitué. Et c'est vrai que, moi, je m'étais aperçu que dans les réunions syndicales, dans les bureaux de syndicats, mais aussi bien CGT que CFDT, qui étaient les syndicats les plus, comment dire, offensifs à l'époque, c'était que des techniciens ou que des professionnels qui tenaient les rênes du syndicat. Il n'y avait pas un seul OS qui était à la direction du syndicat. Quand on arrivait au bureau du syndicat, souvent on nous mettait à l'organisation, ça voulait dire que ben, c'était pour distribuer les tracts, quoi, c'était ça. Mais dans le poste à responsabilité, etc., il n'y avait que des professionnels et des techniciens. Moi, ça m'a beaucoup choqué, mais ainsi qu'avec d'autres copains, hein, et on a mené la bagarre pour justement d'être mieux représenté dans ces bureaux de syndicats, parce que ça nous paraissait complètement anormal cette situation. Donc je pense qu'on a réussi à le faire. Mais il ne faut pas ignorer, je veux dire, c'est un combat qui peut être perdu rapidement, parce que ces populations, les OS, c'est vrai, c'est les plus pauvres, c'est les plus démunis, c'est ceux qui n'ont pas de droits, c'est ceux que tout le monde peut envoyer chier, c'est ceux qu'on peut virer facilement et qui n'ont rien avant, ils n'ont pas de diplôme. Et c'est ça. Mais c'est le drame de l'immigration, c'est le drame des femmes à la recherche d'un emploi pour souvent, qui viennent de se séparer. C'est le problème des plus petits de la société. C'est ça le problème des OS. Or, je pense que quand on est militant, soit de gauche mais, ou syndical, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Les autres, ils ont des armes, je veux dire, ils ont des pour se battre avec leur catégorie sociale, ils le savent. Mais cette couche de gens qui sont majoritaires et qu'on n'entend jamais parler, qu'on n'entend jamais une expression par rapport aux petites revendications, il fallait arriver à faire un plus. Il y a eu des grands conflits dans l'automobile. Hein. La grève de 81 était un grand conflit. 77 à Sochaux, c'est une grève d'OS. 81, c'est une grève d'OS. Et puis après, 81, il y a eu la grève d'Aulnay, Poissy, où ça s'est bagarré aussi avec des OS. Il y avait une montée parmi justement tout ça. Et même le patron nous écoutait puisqu'il est fini par dire que le travail en chaîne, en fait, c'était à 40 ans, fallait à l'époque, à 40 ans, on sortait de chaîne. À 40 ans, le patron trouvait qu'on était usé. Donc il nous change et maintenant, on irait jusqu'à la retraite.
Ce qui revient tout le temps dans votre bouquin, c'est, tu viens de le dire, tu viens d'employer le mot expression. C'est s'exprimer pour ces OS et pour tous. Il y a un déficit dans cette lutte syndical, dans ce militantisme, il y a un problème d'expression, il y a un problème d'arriver à formuler ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire, ce à quoi on aspire, et ça c'est un boulot.
Je crois que c'est très compliqué. Ça me rappelle toujours quand on imagine une équipe de télé qui vient, et il va au bord de chaîne, il demande au gars, comment que c'est vos conditions de travail? Qu'est-ce qu'il peut répondre le mec? Il répond rien. Et comment discuter de ses conditions de travail devant une caméra quand on n'a pas préparé son test, quand on n'est pas prêt dans sa tête pour lui dire... Et puis en fin de compte, c'est comme si je posais la question au caméraman et toi, t'en es content de te trimballer avec tes 3 kilos sur l'épaule depuis 10 minutes comme ça. Je crois que le droit à la parole, c'est un droit fondamental. Alors, il y a certaines populations qui l'ont, hein, je veux dire, on les connaît, hein, oui. Ils sont ronflants, hein, à l'Assemblée nationale, on les voit, hein, y a pas de souci. Mais il y a d'autres populations qui ne l'ont jamais. Alors, on désigne des fois des représentants, syndicalement, qui va parler pour tout le monde, mais... Le militant syndical, même quand c'est un copain, même quand il est bien aguerri, etc., ça remplacera jamais la petite parole de ces gens qui sont tout en bas, pris dans des trucs. Moi, je me souviens avant le rapprochement familial, les interventions pour que les copains puissent trouver un logement, les copains marocains puissent faire venir leur famille. Uh-huh. Donc d'abord, trouver un logement. Mais c'était ça le rôle du délégué. Comment expliquer ça à mon bureau de syndicat? Après, j'ai été délégué pendant très longtemps dans un atelier de garniture. Donc il y avait 600 femmes. 600 femmes qui avaient en moyenne entre 20 et 30 ans. Donc, qui avait une sexualité, qui était enceinte, qui n'était pas mariée, qu'il fallait faire avorter. Loi sur l'avortement n'était pas votée. Donc, en militant syndical, on a appartenu au MLAC. Ça veut dire qu'on fabriquait avec des toubis des avortements clandestins. Mais j'ai jamais pu raconter ça ni à mon responsable syndical, ni au mec du PC, qui était... Pas très chaud pour l'avortement, hein. Faut se rappeler aussi de l'époque même. Moi, je me rappelle que les copains de mon syndicat n'étaient pas opposés violemment, mais enfin, ne manifestaient pas particulièrement pour l'avortement. Alors, c'est vrai que c'est un autre boulot syndical et un autre boulot militant, parce que prendre en compte ces particularités, aussi bien pour le droit au logement, pour le droit à l'avortement, pour le droit de simplement de prendre un bon de sortie quand le gosse est malade, etc. Bien sûr que c'est pas des revendications syndicales, c'est pas la retraite à 60 ans, c'est pas les 40 heures, c'est pas tout ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait le quotidien des gens parmi ces populations-là. Et donc, c'était ça, pour moi, être militant, c'était ça. Mais en plus de ça, il fallait faire le reste. Parce que si on me laissait un mandat syndical pour faire ça, il est évident que j'étais obligé de travailler aussi autrement par rapport aux revendications, par rapport à la vitesse de chaîne, par rapport au cadencement, par rapport aux horaires de travail, etc. Sinon, le syndicat ne m'aurait pas maintenu mon mandat. Donc, il fallait faire les deux. Donc, ça devient plus compliqué. Mais en même temps, moi, je me rappelle de ce combat sur l'avortement, parce que si je n'avais pas rencontré... Parce que ce n'est pas facile, ce genre de combat, quand on est un homme, jeune, et qu'on assiste à ce genre de choses. Si je n'avais pas connu Francine Muel ou des gens intello de la région parisienne... que ça posait aucun souci et qui était prêt pour en débattre, ce qui m'a vraiment convaincu que c'était une juste cause et qu'il fallait y aller. Mais si j'avais pas eu la chance de la rencontrer, je serais peut-être bien resté comme le demeurant pèlerin, pas savoir oui, non.
T'as milité toute ta vie ou bien il y a eu des interruptions?
C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on appelle le militantisme. Moi, j'ai arrêté d'être mandaté. Je n'ai plus voulu être délégué parce que justement, quelque part... être délégué pour militer de cette façon que je faisais, me minait quand même pas mal. Donc,
Quoi miner? Personnellement
Personnellement, ça me faisait... pour tenir le coup, je picolais de plus en plus, donc j'avais beaucoup de problèmes à régler, et il fallait que j'arrête. Donc à un moment donné, il fallait que je coupe. Donc j'ai préféré arrêter de déléguer du personnel pendant une période. Donc après, j'ai été président d'association de locataires, j'ai été président des parents d'élèves aussi, etc. Donc c'est pas arrêter de militer, mais aller se former. Maté un peu ailleurs, quoi. Donc, voilà.
Et la pression de l'entreprise sur le militant, sur le syndicaliste?
Bon, c'est terrible. C'est terrible à vivre. Je crois que le truc le plus dur qui nous est arrivé, c'était en 78, quand Philippe Marchaud s'est suicidé. Donc, un de mes copains qui s'est tiré une balle dans la tête parce qu'il avait des jours à pied, des jours à pied, des jours à pied. Il pouvait plus.
Des jours à pied, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il était...
des mises à pied.
De mises à pied.
Oui, oui.
Et donc, il n'en pouvait plus. Il s'est tiré une balle dans la tête. Et le lendemain, on est allé collecter du fric pour aller l'enterrer parce qu'il était, ses parents habitaient du côté d'Angoulême. Et le mec qui nous a reçus à la direction de carrosserie à l'époque s'appelle Chanot, qui est devenu conseiller politique à l'ancien ministre de la Culture, là, tout bon, m'a répondu directement « Le prochain sur ma liste, c'est toi ». C'est comme ça que ça se passait. C'est terrible d'écouter des choses comme ça, mais ça se passait comme ça dans les usines. C'est pas des histoires simples. En 81, moi, pendant le conflit de 81, les chiourmes, enfin les gardes de l'usine... Avec
les chiourmes
on appelle ça les chiourmes. C'est le pays de Montbéliard, hein, c'est particulier. Normalement, la chiourme...
Ah, la chiourme.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Mais nous, les gardes de l'usine, on les appelle les chiourmes. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'origine de l'usine, donc il y a une espèce de... Donc les gardes de l'usine, un soir en 81, pendant le conflit, avec mon chef de service, le huissier de justice, sont venus m'amener 16 jours à pied. 16 jours. C'est comme ça que ça se passait. C'est assez terrible de le vivre. Et puis après, c'était tout le temps des trucs de jours à pied par semaine. En fait, je crois que dans ma carrière, j'ai eu 85 jours de mise à pied.
Mauvais ouvrier, mauvais compagnon, je m'ai cassé la gueule dans mon tour de France. Mon chef-d'œuvre était de la mettre en transe, quand l'œuvre est immense, c'est perdu d'avance. Mauvais ouvrier, mauvais compagnon. On compte plus les failles dans ma cathédrale, les carillons d'or font des bruits de mort. Les vitraux cassés m'ont tranché le corps, il y a dans la nef la bite d'un porc. On compte plus les failles dans ma cathédrale. Ah merde, j'ai l'amour amer, j'ai l'amour amer, j'ai l'amour amer. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre, j'ai le béguin bègue. Je
peux plus travailler. Et planqué dans mon phare, j'ai rien vu venir. Les grandes vagues à l'âme m'ont coupé du monde. J'ai lancé des lignes qui étaient pas fécondes et j'ai fait naufrage avec ma Gironde. Planqué dans mon phare, j'ai rien vu venir. C'est parti, remise, bois ton RMI. Prends la longue file des cœurs au chômage. Fais les petites annonces sans perdre courage pour trouver l'embauche des yeux sans orage. C'est parti, remise, bois ton RMI. Ah merde, j'ai l'amour à merde, j'ai l'amour à merde, j'ai l'amour à merde. Le cœur en chaos, y'a ma tête à terre, j'ai le bégam bègue. Je peux plus travailler.
Christian Corrouge, quand on voit des reportages sur des usines automobiles aujourd'hui, nous on a fait des reportages chez Toyota au Japon, c'est plus les temps modernes de Chaplin, hein, c'est plus les engrenages, les gars qui sont à la chaîne avec la clé à molette, etc. Or, ce que tu dis dans ton bouquin, c'est que si, ça continue bel et bien. Ça ne concerne plus forcément les mêmes parties du corps, mais le corps est bel et bien en jeu, et plus seulement le corps, mais la tête, les nerfs, la psyché tout entière est mobilisée.
Moi, je crois que c'est plus difficile qu'avant, parce que on demande vraiment au personnel, à l'heure actuelle aux salariés, d'avoir une charge intellectuelle par rapport à leur travail. C'est plus des bourrins qui serraient un boulon, hein. Faut mettre 5-6 butées, une étiquette, faut lire un code barre, faut aller chercher la pièce qui correspond. Il y a 12-15 modèles différents. Faut pas se planter, faut revenir, prendre la machine, serrer. Et vu que tout ça se passe dans un espace très étroit, ça se bouscule. Donc le gars qui est en dessous peut monter sa pièce, donc ça s'engueule, etc. Je crois que c'est plus compliqué. Par rapport à la douleur physique, c'est compliqué. La douleur physique, ça va aussi avec le mal de crâne, je crois. Moi, je crois que quand on vit mal sa situation, physiquement, la douleur est plus forte. J'en suis persuadé, je veux dire. Moi, je vois les gamins, on dit que ça s'est amélioré. Moi, j'ai vu les gamins les dernières années que je travaillais de nuit à Sochaux, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, ils sortaient torse nu. À 4 heures le matin, à 5 heures le matin, ils étaient torse nu tellement qu'ils avaient transpiré dans cette usine. Et on dit que ça s'est amélioré. Ils n'ont même pas été foutus de mettre la climatisation dans les ateliers. Et les gars travaillent à 30, 35. Les pompiers arrosent les toits pour pouvoir continuer à travailler.
Toujours aujourd'hui. Ce qu'on voit, ce que tu racontes dans ce livre, encore une fois, toujours avec Michel Pialoux, c'est l'évolution. Entre 69, quand tu rentres à l'usine, et le mois de mai dernier, on est en 2011, tu as assisté à un véritable retournement de l'estime que le monde ouvrier a de lui-même.
Oui, en 69, 70, jusqu'aux années 80, le groupe ouvrier, il paraissait pour solide, avec une voix qui était entendue, etc. Alors que c'est vrai que tout ça s'est trouvé complètement explosé, les groupes sociaux se sont trouvés explosés complètement, entre le problème d'emploi, le chômage massif, le recours à l'intérim, mais d'une façon honteuse, des équipes qui sont composées à 80% d'intérim. Même le chef d'équipe peut être intérim. Des ingénieurs à belle chance sur la conception des voitures sont intérim. Non mais on est dans une logique quand même qui est là, qui est présente. Et tous ces gens qui vivent mal les mauvaises conditions de travail et qui espèrent qu'une chose, c'est failloter un peu pour pouvoir se sortir de la chaîne et de la galère où ils sont. Et voilà l'explosion du groupe ouvrier où elle est. Alors mettons un peu plus de tension en rajoutant un peu le problème de l'émigration, etc. au milieu de tout ça. Et puis voilà quoi, on a la totale. Moi je dirais que le choix politique, il a été fait à un moment donné. Il y a une population ouvrière vieillissante. La France, ils ont fait le pari qu'elle ne sera plus industrielle, que ça partira ailleurs. Donc après tout, les vieux, ben, on va les garder dans les boîtes. Pour faire le complément, tant qu'il y a besoin un peu de quelque chose, on prend des intérims pour faire le complément. Et ça va s'arranger comme ça.
Christian Corrouge, dans cette vie d'ouvrier, de militant, de lutteur social, dis-moi quelle a été la plus grande réussite et le plus grand échec.
Le plus grand échec, c'est sûrement...
Ah, tu commences par l'échec.
Ouais, parce que comme ça, je m'en débarrasse. Le plus grand échec, c'est sûrement de ne pas avoir réussi à garder le comité d'entreprise pour continuer à former des militants, pour leur apprendre à parler, à rédiger, à écrire, à devenir curieux, devenir des ouvriers citoyens. Voilà, moi je crois que c'est un peu comme ça. Ça, c'est un grand échec, parce que je crois
c'est
que...
C'est un échec qui vient de qui? De la boîte, de
moi, du syndicat. Je crois qu'on n'a pas su, je crois que c'était pas la bonne période, et puis voilà. Le plus grand bonheur ou le plus grand succès, ben, c'est la grève de 81 qui m'a permis de prendre la parole, oui, d'arriver à un jour à se dire c'est moi qui cause, quoi, j'en ai marre que les autres causent à ma place. Oui, ça, oui. C'était un grand bonheur, un immense bonheur. D'accord, j'ai eu 15 jours à pied, mais quel bonheur! Quel espace de liberté que ça m'a offert, hein, jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, j'en continue à en bénéficier, donc. Tout va bien.
Tu as relu le livre, là ?
Ouais, je l'ai relu, oui.
Alors, ben, tu te retrouves ?
J'ai trouvé que c'était correct, et puis que c'était ça, et puis c'était il y a 30 ans, donc c'est des vieux textes. Hein, c'est, même pour ouais, moi, ouais, c'est ouais, émouvant ouais. de lire, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on a vieilli, et que voilà.
Et le dernier paragraphe, c'est l'idée d'apaisement,
oui,
c'est ça ?
Oui, je crois que c'est le mot juste.
Accomplissement, apaisement.
Apaisement, je crois. Accomplissement, non, parce qu'il y aurait d'autres choses à accomplir, mais apaisement, parce que j'ai plus de temps maintenant, je crois que... Et puis, en même temps, avec ce livre, c'est une bonne façon d'être apaisé, je veux dire, pour moi.
Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Vous vous êtes vu avec Pialou, ça a été le prétexte. Ben, le livre a été le prétexte, maintenant le livre est fait, alors ou bien il faut en faire un autre,
je sais pas, peut-être retravailler avec des cinéastes sur un autre projet. Bon, puis il y a cette histoire quand même, non, de cette baraque pour l'histoire sociale qui me passionne et que, non, j'ai envie de... Alors peut-être que justement il y aura des films de refait, mais à cause de ça, parce que je pense que là, il y a du boulot à faire.
Bon, on va finir en disant, ce n'est qu'un début.
Ben oui, c'est vrai que ce n'est qu'un début. Ça n'arrête jamais, ça.
Voilà, c'était Christian Corot. Je rappelle encore une fois le titre de son bouquin avec le sociologue Michel Pianou, « Résister à la chaîne », c'est aux éditions Agone. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian. Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Marina. Attend vos messages au 01 56 40 37 37.
Allô, le conseiller gaz de France Dolce Vita ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, je déménage bientôt et j'ai oublié de m'occuper de mes contrats d'électricité et de gaz. C'est trop tard.
Ah mais non, pas du tout. Vous allez sur électricitégazexpress.fr et vous faites votre demande de souscription en quelques clics.
Et c'est traité rapidement ?
Ah oui, en moins de 24 heures. Et en plus, les frais de mise en service pour le gaz naturel et l'électricité sont offerts jusqu'au 31 juillet.
Ah bah ça tombe bien.
Rendez-vous sur électricitégazexpress.fr. Offre soumise à condition.
Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et Le Monde présentent la collection Le Monde de Simenon, dirigée par Pierre Assouline. Une sélection en 20 volumes des 60 plus grands romans de Georges Simenon pour découvrir les multiples univers d'une œuvre majeure. Retrouvez les paysages et les décors de cet écrivain voyageur, plongez dans les climats intérieurs de ce sondeur d'âme et suivez le commissaire Maigret dans ses enquêtes les plus célèbres. Une collection à retrouver chaque jeudi avec Le Monde et à partir du 7 juillet tous les jeudis à 8h55 sur France Inter et franceinter.com.
Voilà, on a appris la libération de deux confrères prisonniers en Afghanistan depuis 18 mois. Nous, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis, les infos, Angélique Bouin. Salut.
Nos deux confrères journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier devraient être de retour sur le sol français dès demain. Leur libération a donc été annoncée il y a un peu moins d'une heure par France 3, Christian Chéneau, puis confirmée par l'Élysée.
Oui, la bonne nouvelle tant attendue par les familles, les proches d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier vient enfin d'arriver après 547 jours de détention. Les deux journalistes sont enfin libres. L'information vient d'être confirmée par France 3. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, l'a annoncé aux députés et dans un communiqué, l'Élysée remercie le président afghan Hamid Karzai pour la gestion de la crise et tous ceux qui ont participé à cette libération. Alors les deux hommes sont maintenant avec les militaires français sur la base de Tagab, à l'est de Kaboul, avec leurs trois accompagnateurs afghans dont on ne sait toujours pas s'ils ont aussi été libérés. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier avaient été enlevés il y a un an et demi, le 29 décembre 2009. Pour France 3, ils effectuaient un reportage sur la reconstruction du pays dans la vallée de la Capissa. Ils seront de retour en France demain jeudi. Dans les prochaines heures, affirme même François Fillon, le Premier ministre.
Et c'est la joie, vous le disiez, le soulagement intense pour leurs familles, leurs amis, bien sûr, et les très nombreux comités de soutien qui n'ont jamais relâché la pression pour qu'on ne les oublie pas. Des fêtes sont actuellement improvisées dans certains endroits. Écoutez la réaction de Patricia Philibert, elle est porte-parole d'un comité de soutien. Géraldine Nalot la joint par téléphone.
On vient juste de nous dire que nos amis étaient libres. Béatrice Coulon, qui est la compagne d'Hervé, et Arlette Taponnier, la maman de Stéphane, ont reçu un coup de fil de l'Élysée leur annonçant que Hervé et Stéphane étaient libres. Libres ! Libres !
Est-ce que vous savez s'ils sont en bonne santé ?
Nous ne savons rien de plus. Ils devraient arriver vite. Ils sont à Kaboul. Ils devraient arriver demain matin. Mais ça, il faudra le confirmer. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On fait tous une fête improvisée. Place Stravinsky avec les amis, les journalistes et la famille qui restait. Voilà. Ça fait un an et demi depuis le premier jour où on espère que c'est le dernier. Et voilà, ça fait un an et demi qu'on est là, comme des crétins, à essayer de faire quelque chose au bout de la France. Il y a plein de gens qui sont mobilisés avec nous et on aimerait leur dire un grand merci, mais ça va être difficile de remercier tout le monde.
Voilà, et nous reviendrons longuement sur France Inter dans nos journaux du soir sur cette libération avec un pop corner spécial et une émission spéciale de l'information entre 19h et 20h ce soir. Page spéciale également consacrée à cette bonne nouvelle sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité et en bref, une nouvelle épreuve de BTS sera bien organisée pour les élèves d'Île-de-France qui n'ont pas pu accéder au centre d'examen d'Arcueil la semaine dernière. Ce sera mi-juillet, annonce du ministère de l'Enseignement supérieur. Et le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, salue un vote de responsabilité nationale après l'adoption par les députés grecs du plan d'austérité sur 5 ans, adopté par 155 voix contre 138, ce qui laisse penser que le programme sera définitivement adopté demain. Et puis le tennis à Wimbledon avec le quart de finale, Joe Wilfried Tsonga face à Roger Federer, le Français qui a perdu les deux premiers sets 6-3, 7-6, mais qui se reprend dans le troisième. Actuellement, il mène 5 jeux à 4. Il est 16h03 sur France Inter.
Tous les jours, c'est gay. À partir de 11h,
c'est gay.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Arrêtez de rire sur le mot gay, enfin vous n'avez pas 12 ans.
Mais c'est vrai, Stéphane.
12 ans, Stéphane.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Rachida Dati, Thomas Guijol et Fabrice Eboué, rendez-vous demain jeudi dès 10h devant la porte B de la maison de Radio France.
On va pas y arriver.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, tous les jours sur France Inter, à partir de 11h.
France Inter.
La différence.
La différence.
Et l'on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, ça approche, les vacances sont déjà parties, ils sont déjà à la plage, les doigts de pied en éventail j'espère, et puis je propose à d'autres d'aller bronzer ou alors de marcher, de nager, mais avec de la musique autour, par exemple dans le bassin d'Arcachon il y a des escapades musicales, alors vous connaissez peut-être l'endroit, c'est tout à fait superbe, la mer, les huîtres, une bonne compagnie, par exemple un concert le 13 juillet à 11h, déjeuner sur l'herbe avec Brigitte Engerer et Gérard Cossé. C'est aux terrasses de la dune, au Pilat-sur-Mer, c'est un endroit évidemment extrêmement connu. Et s'il fait mauvais, on croise les doigts, mais enfin, à ce moment-là, le concert aura lieu à l'église du Moulot. Alors, il y aura du Liszt, du Schumann, du Schubert, et puis après, un déjeuner sur l'herbe avec les artistes, dégustation d'huîtres, n'hésitez pas à apporter votre pique-nique aussi, mais les huîtres, nous dit-on, seront gratuites le 13 juillet aux terrasses de la dune du Pilat-sur-Mer. Voici le bon Gérard, l'admirable Gérard Cossé, qui sera aussi présent le 15 à 9h30 aux cabanes Chanquet, ces cabanes sur pilotis. C'est vraiment un endroit absolument superbe aussi, qui mérite le détour. Ça n'est pas qu'exotique, c'est aussi vraiment une sorte de tradition. Ce sont les racines de ce bel endroit. Donc Gérard Cossé joue les Baft, vivant tiré des images de contes de fées de Robert Schumann.